D'habitude, louer un kayak, c'est juste prendre une pagaie, un gilet et on se jette à l'eau. Mais aujourd'hui, pour ce deep dive, on va décortiquer un rapport technique sur Kayak ce mois, une base en Belgique.
Et c'est un cas d'école fascinant.
Ouais, c'est clair. La mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette simple infrastructure d'écotourisme, elle a fusionné la résilience climatique et la data en temps réel pour devenir une vraie forteresse numérique et dominer les moteurs de recherche.
Parce que dominer Google aujourd'hui, enfin optimiser quelques mots-clés, ça suffit plus du tout, quoi.
C'est ça, on dirait presque la préparation d'un lancement spatial tellement il y a de la télémétrie partout.
Exactement. En fait, en transformant leur site en un outil de sécurité publique incontournable, ils génèrent un trafic récurrent. Les gens viennent plus juste pour louer, ils viennent vérifier les risques de crue. Et Google voit ça, il voit le temps passer sur la page et il les propulse tout en haut des résultats.
Mais c'est si dangereux que ça, là, ce mois ?
Ah mais c'est vital! Le bassin de cette rivière, il est composé de schistes imperméables. Donc l'eau, elle n'est pas absorbée par les sols, tu vois. Ça ruisselle directement et ça crée des crues éclairs où le volume d'eau peut carrément tripler en à peine 6 heures.
En 6 heures? Ah ouais, d'accord. Mais quand je lis les données du rapport, je me dis, est-ce que c'est pas un peu du tech washing et tout ça?
C'est-à-dire?
Je veux dire, un algorithme prédictif de dingue, juste pour une balade en canoë en famille, c'est vraiment indispensable. On peut pas juste regarder la rivière.
Non, c'est pas possible. La cinétique de ces crues éclairs rend l'observation visuelle humaine complètement obsolète et surtout super dangereuse. L'onde de crue massive, elle peut très bien survenir en plein milieu de la descente.
Ah, donc tu peux te faire surprendre sur l'eau, quoi.
Tout à fait. C'est pour ça que leur système est branché en direct via une API sur la base du gouvernement, UBO. Ça aspire les données toutes les 15 minutes.
15 minutes, c'est précis.
Et l'algorithme maison traduit ces données brutes, genre un débit de 20 mètres cubes seconde, en un score de difficulté ultra simple à lire pour le grand public. Si l'eau est en dessous de 12 degrés, par exemple, le système hurle au risque mortel d'hydrocution. Le danger invisible devient lisible.
C'est brillant. Mais bon... avoir la meilleure alerte numérique du monde, ça sert strictement à rien si la crue balaie l'accueil et les infrastructures physiques derrière, non ?
Et c'est justement la leçon tragique des inondations de 2021. Avant, on laissait des caravanes résidentielles dans le lit de la rivière.
Ce qui est hyper dangereux, en fait.
Bah oui, elle faisait office de barrage destructeur. Ça retenait les débris et paf, ça cédait violemment sous la pression. Donc la législation a interdit ça. Mais maintenant, la vallée est passée à un urbanisme dit transparent.
J'adore cette image mentale. Les campings modernes, en fait, ils sont conçus comme des passoires, quoi. L'eau doit juste s'écouler librement au lieu de s'écraser contre des murs.
Exactement, c'est la métaphore parfaite. Concrètement, c'est des habitats légers sur pilotis, avec des protocoles d'évacuation hyper stricts avant l'hiver. Et il y a aussi le processus Certibéo.
Ah oui, le truc pour les eaux usées, c'est ça, hein ?
Ouais, ça garantit que les réseaux sont étanches et que les eaux usées vont pas contaminer la vallée si la nappe phréatique déborde.
Du coup, toute cette mutation, ça change complètement le produit vendu. On loue plus juste un bateau en plastique pour rigoler, on achète une vraie montée en compétences.
C'est l'ère des skillcations, genre contraction de compétences et vacances. Ils enseignent la biomécanique de la pagaie pour préparer les gens à des parcours de 21 km.
Ce qui demande de brûler dans les 945 kilocalories. C'est énorme.
C'est très sportif. Et leur vision pour 2035, c'est d'aller vers de l'hôtellerie off-grid, donc totalement hors réseau et autonome en énergie.
Alors là, il y a un paradoxe sociologique qui me fascine.
Lequel ?
Comment une entreprise peut utiliser un arsenal technologique hyper connecté, avec des API, de l'IoT et tout, pour vendre au final une expérience de détox numérique ? C'est le comble, non ?
C'est vrai que c'est ironique, mais en fait, l'hypertechnologie devient invisible. Elle tourne en tâche de fond pour neutraliser les risques et te simuler une immersion totale dans la nature sauvage.
Ce qui prouve bien une chose pour l'économie d'aujourd'hui, la maîtrise absolue des données environnementales, c'est devenu le seul socle de survie commerciale face au climat.
Complètement. Le rapport parle même de l'arrivée de quotas stricts et de réservations électroniques obligatoires pour protéger la biodiversité. La rivière Ourthe est d'ailleurs déjà limitée à 125 kayaks par jour.
Et ce qui laisse une question assez vertigineuse en suspens pour terminer ce deep dive, si la protection de la nature exige un contrôle numérique aussi strict, est-ce que l'accès à la nature sauvage va devenir une exclusivité contingentée ? Le plein air pourrait bien se transformer en un club privé, inaccessible sans une autorisation algorithmique. À méditer la prochaine fois qu'on envisage une simple évasion en forêt.